Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver. Mais oui, on va débattre jusqu'à 14h, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier, on est ensemble sur RMC Story. Fin des jauges dans les restaurants, retour des festivals en extérieur, plus de restrictions pour les mariages. Est-ce qu'on ne déconfine pas trop vite? C'est notre question jusqu'à 13h, une question à laquelle va répondre notre star des réseaux sociaux depuis hier. Emmanuel, mais quel succès! Hier, il y avait toi en top tweet et la mère d'Adrien Rabiot.
Oui, écoute, bah oui, je ne connais pas Madame Rabiot. écoute, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour mériter ça. Écoute, mais non, mais notre émission d'hier a été un peu, effectivement, voilà, animée. Alors moi, tu sais, quand j'ai appris le
donc
journalisme...
Donc hier, on parlait de la question,
on parlait de la question
vaccin et d'arrêter de rembourser les tests de confort.
Absolument, absolument. Et on en est arrivé à la question, est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ou pas? Donc si tu veux, moi, mes maîtres en journalisme m'ont dit, il faut exagérer et simplifier. Donc oui, j'ai exagéré et simplifié. J'ai dit, effectivement, que, ah ouais, ceux qui veulent pas se faire vacciner, hop, allez, on les vaccine de force. Alors j'ai employé l'expression « mais les menottes », etc. Mais franchement, c'était une image. Voilà, bien évidemment, il s'agit pas de le faire en vrai. Mais il s'agissait de faire comprendre quand même que, un, aujourd'hui, oui, moi je pense qu'il faut que la vaccination soit obligatoire. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, tous les gens qui sont contre le vaccin aujourd'hui, on ne peut plus les convaincre. Donc c'était à un moment, il faut que la loi s'impose. Voilà, c'est tout. Et il s'agissait pas, évidemment, de mettre les gens dans des cars, dans des bus, menottés pour aller les faire vacciner, bien évidemment. C'était une image qui était... parlante et pédagogique.
Et puis je pense que tous ceux qui nous écoutent maintenant depuis des mois et des mois savent qu'avec Emmanuel Le Chypre, tout ce qui n'est pas interdit doit être obligatoire. Enfin, je comprends pas que ça vous étonne.
En tout cas, on a d'autres sujets pour toi, pour t'énerver. Oui, la retraite à 64 ans, ça sera notre sujet à 13h. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps? Et puis on jouera au C'est quoi ça, midi 50, notre jeu sur l'actualité a gagné cette semaine. Un séjour dans les résidences Noémie pour 4 personnes. Vous pourrez choisir les Pyrénées, Alpes du Sud, Savoie ou Alpes du Nord pour jouer avec nous et gagner votre séjour. Vous envoyez JEU par SMS au 732-16. Retour à la vie presque normale. Nous sommes le 30 juin, c'est donc le début de la dernière phase du déconfinement. Les restrictions sont levées dans une grande partie des lieux accueillant du public. Fin des jauges dans les restaurants, retour des festivals en extérieur, plus de restrictions pour les mariages. Vous pouvez même enlever votre masque si vous êtes à plus de 2 mètres au bureau. Dans les magasins, il n'y a plus la jauge des 4 mètres carrés par client. Les salons et les foires d'exposition, il y a quand même un pass sanitaire au-delà de 1000 personnes. Mais quand même, la vie normale avec une épée de Damoclès, le variant Delta, 20% des cas de Covid dans le pays désormais. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le journal, le département des Landes choisit de garder les restrictions jusqu'au 6 juillet inclus. C'est là où il y a la souche Delta la plus importante en France. Alors la contagion va-t-elle reprendre à l'automne? C'est toute la question. Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du conseil scientifique, était ce matin avec Jean-Jacques Bourdin. On l'écoute.
On voit qu'à la rentrée, on aura très vraisemblablement une augmentation du nombre de cas. Et c'est vraiment là où le message sur les vaccins est extrêmement important. C'est qu'avec des vaccins 2 doses qui protègent à 95% contre les hospitalisations, il y a une façon très simple de faire que cette 4e vague ne soit pas une vague qui mette en tension les systèmes hospitaliers. Je pense qu'on peut tout à fait réouvrir et profiter de ces mesures qui ont été levées pour reprendre une vie beaucoup plus agréable pour nous en profitant des loisirs, des rencontres, des réunions. Ne faisons pas n'importe quoi pour autant. Et on aura un été qui sera... qui devrait bien se passer d'un point de vue sanitaire.
Mais
profitons de cette période de l'été pour se vacciner.
Arnaud Fontanet qui était rassurant et prudent à la fois. Alors, est-ce qu'on ne déconfine pas trop vite? Pour Emmanuel, toi, c'est oui.
Bah oui, parce que quand on a pris toutes ces décisions de ce calendrier de déconfinement, on était dans une phase descendante de l'épidémie. Or, moi, je suis désolé, mais je regarde ce qui se passe à l'étranger et jusqu'à preuve du contraire, on n'est jamais resté finalement indépendant, autonome, à l'écart de tout ce qui se passait à l'étranger. Quand l'épidémie est repartie à l'étranger, elle a toujours fini par repartir en France. Or, ce qui se passe tout près de chez nous, au Royaume-Uni, par exemple, est quand même extrêmement préoccupant. Je vous rappelle que on était à moins de 2000 contaminations par jour début mai, que mi-juin on était à 9000 contaminations par jour et qu'on est aujourd'hui à 18000 contaminations par jour avec ce fameux variant Delta, dans un pays qui a confiné violemment, dans un pays qui a vacciné beaucoup, donc nos frontières ne sont pas fermées. Donc le variant Delta, il est bien là, il circule. Il y a aujourd'hui tout un tas de pays qui prennent des mesures de durcissement, des mesures de reconfinement. Il y a le Portugal, il y a l'Angleterre, il y a l'Australie. Donc, moi, je trouve que on est quand même un peu à contre-courant. Tout rouvrir quasiment aujourd'hui, moi, pour moi, on est à contre-courant et on prend beaucoup de risques pour non seulement la rentrée, mais peut-être même pour cet été.
Laurent, pour toi, les restrictions, ça ne sert plus à rien.
Bah, c'est pas ça, c'est que Emmanuel, à chaque fois qu'il défend cette thèse-là, il cite les chiffres de la Grande-Bretagne, mais il faut citer les chiffres de la France. Pourquoi tu le fais pas? Les chiffres de la France, on est seulement à un quart des lits de réanimation occupés. Hier, il y a 29 personnes qui sont rentrées en réanimation. Il n'y a plus que 1200 personnes en réanimation, donc en situation critique, en soins intensifs. On n'a jamais été aussi bas depuis des mois et des mois. Le fameux taux d'incidence, on est tombé, j'en croyais pas mes yeux, j'ai cru qu'il y avait une erreur sur mon application. On est tombé à 18 pour 100 000. Le seuil critique était de 50. Souvenez-vous, on était monté à 600, à 900 même dans certains départements. Là, on est à 18. 18 sur l'ensemble de la France. Il y a une petite exception, tu l'as dit Laure, ce sont les Landes. Les Landes ont décidé de repousser de 7 jours la levée des restrictions et c'est assez logique à cause du variant Delta. Mais moi, je trouve que tous les chiffres que tu as cités en Grande-Bretagne, c'est pas une pub pour reconfiner ou pour maintenir les restrictions, c'est une formidable publicité pour aller se faire vacciner. Et on va pas refaire le débat qu'on a eu hier, mais allez vous vacciner, mon sang de bonsoir. Parce qu'il y a une deuxième raison d'aller se faire vacciner, c'est que peut-être que tu vas avoir raison, d'ailleurs Fontanelle disait, peut-être qu'à la rentrée, on va avoir une quatrième vague qui ne ressemblera sans doute pas aux autres. Mais si on veut s'éviter le retour des restrictions sanitaires, mais bon sang, allez vous faire vacciner. C'est ça le sujet, de mon point de vue en tout cas. Et puis il y a un deuxième sujet dont on ne parle pas, ou trop peu à mon avis, c'est que la levée des restrictions ne veut pas dire la fin des gestes barrières. Le port du masque quand on est en groupe, le fait d'aller se laver les mains quand on rentre dans un magasin, le fameux gel hydroalcoolique, tout ça, personne n'a jamais dit qu'on arrêtait tout ça. Il faut continuer à faire tout ça. Donc si on va se faire vacciner et si on fait attention à ces gestes barrières, bah oui, je pense qu'on fait bien de lever les restrictions, mais bon sang,
Laurent,
je le répète, allez vous faire vacciner.
À chaque fois, l'épidémie elle a jamais progressé au même rythme selon les pays. Tu peux pas te dire, ah bah nous nos chiffres sont bons, tout va bien, youpla boum, sans tenir compte de ce qui se passe à l'étranger, puisque encore une fois, à chaque vague de l'épidémie, ce qui s'est passé en France, c'est ce qui s'était passé ailleurs, avec un décalage. Donc, on peut se réjouir aujourd'hui de la photo que tu fais, mais je pense que c'est quand même relativement
risqué. Emmanuel, comme je sais que tu es un type qui a de la mémoire, tu te souviens que depuis le mois de janvier, toi et moi, on s'écharpe toujours sur le même sujet. On ne peut pas dire aux Français, lorsque les chiffres sont mauvais, on prend des mesures restrictives, mais lorsque les chiffres sont bons, on les prend aussi. Parce que alors du coup on les prend tout le temps. Du coup on reste fermé, on reste en couvre-feu, on confine, on continue à maintenir les restrictions sanitaires, même quand ça va bien, au prétexte qu'autour de nous ça irait moins bien.
La réalité c'est que du coup tu passes ton temps à ouvrir, à fermer, oui.
Il y a des graves dans les mesures sanitaires.
Ben, c'est peut-être mieux que de laisser tout fermer tout le temps. Voilà.
Lisa Marie, bonjour. On peut voter sur les réseaux sociaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous rappelle notre question. Est-ce qu'on ne déconfine pas trop vite? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC depuis votre téléphone.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Je rappelle que depuis le début qu'on fait des émissions sur le Covid, on est toujours à 50-50 sur les votes, sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que là, ça va changer. On est avec Christophe qui nous appelle depuis Strasbourg, qui est cadre commercial. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Salut Christophe.
Toi, tu es plutôt côté Emmanuel Le Chypre. Tu penses qu'on déconfine trop vite?
Complètement. Et alors, je vais rejoindre Laurent Neumann sur le fait que ça doit être le premier argument pour pousser à la vaccination, sauf qu'il y a toujours autant de réfractaires à la vaccination. Donc la question, c'est on fait quoi? Moi, je prends pour exemple maintenant mon assurance auto. Je suis assuré en tout risque. Et pourtant, si j'ai un accident et que j'ai le téléphone au volant, bah, malheureusement, l'assurance ne me couvrira pas. Donc je vais faire le parallèle avec la vaccination. Et ben, moi, je serais d'avis de dire, ben, si je suis hospitalisé, mais que j'ai pas été vacciné, alors que j'ai la possibilité de, eh ben c'est pour ma pomme. C'est-à-dire que les frais qui sont engrangés, ben c'est pour ma pomme.
Alors, t'es pas le premier à faire cette proposition. Toi, Laurent, t'as toujours été contre. Hein.
Oui, parce que
mais c'est que en tapant dans le porte-monnaie que les gens finalement prendront la décision de dire ah oui, ok, tout le monde veut revenir à une vie normale, mais il y a encore l'égalité.
Tu touches à l'égalité de soins.
Oui, mais regarde, ta théorie, elle tient pas, Christophe. Je vais te prendre un exemple. Donc, quelqu'un qui boit plus de 2 verres de vin par semaine et qui se retrouve avec une maladie de longue durée, cirrhose, diabète, tout ce que tu veux, etc. On dit ah bah attendez. vous êtes mal comporté, donc vous allez payer vos frais de santé. Le fumeur qui se retrouve avec un cancer du poumon, on lui dit votre cancer, vous allez vous le payer vous-même. Et pourtant, il y a des gens qui attrapent un cancer du poumon, ils n'ont jamais fumé une cigarette. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait?
Là, la cirrhose du foie, est-ce qu'elle va pénaliser une économie nationale, internationale? Est-ce qu'elle va confiner? Est-ce qu'elle va, elle va restreindre des enfants à aller à l'école? Est-ce qu'elle va fermer les boîtes de nuit, les restaurants? Je ne crois
c'est
pas.
C'est vrai.
Le seul aujourd'hui virus qui pose problème, c'est le Covid ou la Covid. Donc, il faut traiter la Covid. Donc, si aujourd'hui, l'histoire de là, sur les 28 hospitalisations, j'écoutais avant les chiffres, sur les 28 qui ont été hospitalisés, combien sont vaccinés, combien ne le sont pas?
Sans doute aucun. Sans doute aucun n'était vacciné, puisque la vaccination, c'était notre débat hier qui nous a tellement enflammé. La vaccination protège à 95% des formes les plus graves, celles qui justement t'envoient en réanimation, voire peuvent te conduire à te tuer. Donc effectivement,
Christophe, il te dit qu'en 28 là, il faudrait qu'il paye.
Quand j'entends ce matin que la braderie de Lille est annulée parce que, alors je comprends l'histoire du volume. Mais entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui sont pas vaccinés, je comprends parfaitement. Mais dans ce cas-là, vous pénalisez encore une fois aujourd'hui une minorité de vaccinés. Donc ouvrons, permettons les animations aux gens qui respectent.
J'avoue, alors ça
donc pas sanitaire pour tout.
Ouais, Christophe, je vais aller dans ton sens. J'avoue que j'ai pas compris l'histoire de la braderie de Lille. Moi, j'avais cru comprendre qu'on mettait en place un pass sanitaire pour tous les événements.
Mais là, c'est impossible.
Sauf que la braderie de Lille, impossible.
Attends. Vous êtes d'accord qu'il y a un pass sanitaire pour tous les événements à plus de 1000 personnes.
Oui, mais...
Là, effectivement, la braderie de Lille, elle est en extérieur. Mais qu'est-ce qui empêche les organisateurs de la braderie de Lille on délimite le périmètre de la braderie. Vous voulez rentrer dans le périmètre.
Mais il y a des gens qui habitent.
Laurent, c'est compliqué. Il y a des gens qui habitent.
C'est impossible.
En plus, alors toi qui, quand on voulait fermer des régions, tu disais c'est pas possible. Il y a trop d'accès. On peut pas mettre des flics partout.
Ok, tu fais une exception pour les riverains.
Ça veut dire que
tu
te rendes compte que dans la ville, ça veut dire à chaque rue mettre des contrôles, c'est impossible. Ou alors tu déclares que tu l'as fait dans un espace clos, je sais pas moi, une grande salle.
C'est plus la même chose.
Et c'est plus la même chose. Ou alors tu l'as fait dans le stade de Lille où les gens viennent sur la pelouse.
Un autre événement quoi.
Oui, c'est un autre événement, mais c'était une façon de maintenir.
Mais juste Laurent, tu y viens au pass sanitaire.
L'événement.
Petit à petit.
Mais le pass sanitaire pour les événements avec beaucoup de personnes. En intérieur, j'ai toujours dit que j'y étais favorable. Là où je continue à être défavorable, c'est le pass sanitaire pour l'organisation de la vie de tous les jours. Un pass sanitaire pour aller au restaurant, pour aller acheter ses fruits et légumes, pour aller au supermarché, etc. Je pense que ce n'est pas vivable.
Non mais Christophe, là où il a raison, c'est que sur les assurances, Christophe, quand tu dis en fonction du fait que tu fumes, que tu bois, la réalité c'est que par exemple, quand tu prends un crédit immobilier aujourd'hui, tu es quand même obligé de passer un examen médical et que en fonction de ton état de santé, tu payes une assurance plus ou moins élevée, ou bien l'assurance t'exclut carrément de certains risques, c'est-à-dire qu'elle dit ok, moi je veux bien que vous preniez l'assurance, mais je ne vous garantis pas en cas de tel risque. Donc ça existe déjà.
Et encore une fois, ces pathologies-là ne pénalisent pas une économie à l'échelle locale, régionale ou nationale. Là, ce virus, ça a un impact. On le voit bien, ce Delta, ce variant, ça vient d'Angleterre. Ça arrive en France, mais comme le variant anglais, comme la première souche certainement du Covid. Donc, dans 6 mois, on refait un point, on se rappelle et on verra, on dira ah bah oui.
Christophe, surtout que les frontières sont quand même pas hermétiques.
Christophe, juste d'un mot. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on n'a pas encore tout fait pour aller chercher les fameux récalcitrants ou les fameux réfractaires. Je pars du principe que dans ce pays, il y a des antivax, mais ils sont ultra minoritaires. C'est aller entre peut-être 5 et 10% de la population maximum. Et donc, les 30% ou les 40% qu'on a du mal à amener au vaccin, cela, c'est au pouvoir public à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les amener au vaccin, sans le rendre obligatoire, sans prendre des mesures punitives. J'attends demain que la CNIL dise enfin, oui, les médecins traitants, vous pouvez avoir accès à la liste de tous vos patients non vaccinés. C'est pas attentatoire au secret médical, les médecins savent absolument tout. C'est pas du harcèlement, les médecins sont payés pour prendre soin de leurs patients. Quand on aura fait ça dans quelques semaines, dans quelques mois, quand on aura été relancé par son médecin traitant et qu'il restera encore des réfractaires, Eh ben là, je viendrai sur ton terrain, Emmanuel, et je me poserai comme toi la question du vaccin obligatoire.
Les anti-vaccins sont peut-être pas très nombreux, mais ils sont assez bruyants. Dans un instant, on sera avec Philippe Amouyel, professeur en santé publique au CHU de Lille. Un grand merci à Christophe qui est venu débattre avec nous au 32-16. Vous ne bougez pas, on revient sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. Fin des jauges dans les restaurants, retour des festivals en extérieur. Plus du tout de restrictions pour les mariages et non pas plus. C'est justement le contraire, c'est le grand déconfinement. On est le 30 juin, alors est-ce qu'on va pas trop vite pour Emmanuel Le Chypre? Oui, la quatrième vague est devant nous. Pour Laurent Neumann, non, les restrictions ne servent à rien. Le seul sujet, c'est la vaccination. Avant d'aller voir Philippe Amouyel, professeur en santé publique au CHU de Lille, Lisa Marie, quelle est la première tendance des votes?
Vous êtes pour le moment 62% à répondre non, on ne déconfine pas trop vite.
Tu vois, c'est pas 50-50
c'est
tout
vrai.
Le temps. Tu vois,
je vois que tu progresses.
Mais je progresse de jour en jour.
C'est parce que tu fais 62%, mais ça n'est pas terminé. On était avec Philippe Amouyel. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous nous accompagnez déjà depuis un an, depuis le mois de septembre, ensemble sur les sujets sanitaires. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce variant Delta qui progresse très très vite?
Oui, il faut qu'on s'inquiète de ce variant Delta parce que ça montre que l'épidémie n'est pas encore terminée. On n'en est pas encore sorti, même si on a un goût de liberté qui est revenu. Mais à la différence des précédentes vagues, on a des outils aujourd'hui. On connaît mieux l'épidémie, donc on a les moyens de la stopper. Et surtout, on est redescendu à des niveaux extrêmement bas de contamination. Donc on est dans les meilleures conditions pour mettre en place un plan de lutte contre ce variant Delta et contre une éventuelle quatrième vague ou vaguelette à la rentrée.
Philippe Amouyel, mon camarade Emmanuel Le Chypre, qui ne dit pas que des bêtises, dit depuis des mois qu'il faut séquencer, qu'il faut tracer, qu'il faut isoler. Je constate qu'on est tombé à des niveaux très très bas. On est aux alentours de 2000 contaminations par jour. Je crois même que sur les trois derniers jours, on est aux alentours de 1200 contaminations, ce qui est extrêmement faible. Donc on pourrait tracer, on pourrait en tout cas séquencer les tests positifs. Et non seulement on trace peu, mais on isole quasiment pas. Est-ce que c'est pas ça la faute?
Alors, dire qu'on trace peu, non, puisque maintenant les plateformes des caisses d'assurance maladie qui sont restées à plein régime ont beaucoup moins de cas, donc peuvent tracer efficacement. Elles font même ce qu'on appelle du rétro-tracing, elles essaient de voir par qui la contamination est venue. Donc ces deux points sont très positifs. Là où ça coince un peu, c'est l'isolement, puisque vous savez qu'en France, les contraintes liées à l'isolement sont relativement faibles. C'est bien, on fait confiance aux Français. Mais sur un petit nombre de cas qui vont justement être liés à cette bas niveau de contamination, ça vaudrait peut-être le coup d'insister un peu plus, en effet, sur l'isolement.
Je vous interromps, soyons clairs. Avec le variant Delta, dont on dit qu'il est extrêmement transmissible, est-ce qu'il ne faut pas rendre l'isolement obligatoire plutôt que de s'interroger tous les matins sur la vaccination obligatoire? L'isolement obligatoire aurait peut-être des effets bien plus immédiats, non?
Ben le problème, c'est que l'isolement, il est déjà théoriquement obligatoire. L'isolement obligatoire n'a de sens que si on contrôle l'isolement, si on met en place des mesures qui permettent de savoir si les gens s'isolent bien. C'est ça le point. On peut le déclarer obligatoire, mais il faut le contrôler. Or, aujourd'hui, il y a suffisamment peu de cas pour que justement on puisse mettre en place un contrôle un petit peu plus strict et un petit peu plus direct que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui un plan de lutte contre le virus et surtout ne pas attendre.
Exactement. Je pense que là, le point qui est un peu positif dans ce nouveau variant, c'est que le gouvernement a anticipé. Monsieur Castex et Monsieur Véran sont descendus tout de suite au moment du cluster dans les Landes, envoient des signaux extrêmement alertants quand même pour dire que ce n'est pas fini. Et puis surtout, c'est il faut vacciner massivement parce que maintenant on a cet outil, il faut l'utiliser. On a quand même une grande partie de la population française qui est vaccinée, mais pas encore assez parce que je vous rappelle qu'il faut deux doses de vaccin avec ce variant. Mais si on arrive à vacciner un certain nombre de personnes, je peux le détailler un petit peu, on pourrait limiter l'étendue d'une éventuelle vague à la rentrée.
Philippe Amouyel, est-ce qu'il faut que les médecins traitants aient accès à la liste de leurs patients non vaccinés? On sait que la CNIL doit rendre son avis demain. Est-ce que c'est pas ça aussi l'urgence?
Oui, alors l'intérêt c'est quoi? C'est finalement d'essayer de vacciner les 3 ou 4 millions de Français qui ont plus de 65 ans, qui sont fragiles, qui ne sont pas encore vaccinés. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne se vaccinent pas? Parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à Internet, parce que c'est un peu compliqué, ils sont éloignés. Donc finalement, les identifier comme cela, grâce aux à une personne de confiance, hein, qui est le médecin traitant, qui puisse avoir cette liste et aller directement vacciner et convaincre cette personne. C'est quand même plus facile de convaincre quelqu'un qui a des doutes, si c'est une personne de confiance comme son propre médecin, que d'arriver dans un centre de vaccination, même bien organisé, mais relativement anonyme. Donc cet élément est extrêmement important et je souhaite de tout cœur que la CNIL aille dans ce sens-là.
Mais Philippe Amouyal, quels arguments on peut évoquer justement pour lever les doutes sur la vaccination? Parce qu'il y avait l'argument sur bah oui, ces nouveaux vaccins ARN messager, on connaît pas. Mais on peut très bien dire aux gens, bah attendez, choisissez les vaccins traditionnels, les vaccins classiques à ce moment-là.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a deux types de gens qui ne veulent, de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Ceux qui hésitent et ceux qui sont profondément anti-vaccination. Donc, je crois qu'il faut qu'on se concentre sur ceux qui hésitent. Et ceux qui hésitent, ils ont chacun une bonne ou une mauvaise raison de ne pas se faire vacciner. Un exemple dans la famille, quelqu'un dont on a entendu qu'il avait eu des événements secondaires. Ou alors le fait de « Ah, on a été trop vite. Ah, on n'a pas assez de recul. » À chaque fois, il y a des arguments possibles qui peuvent être apportés. Si c'est un journaliste ou un politique qui apporte cet argument, il sera bien moins cru que si c'est le médecin généraliste qui a l'habitude déjà de prescrire des médicaments.
Mais il faut continuer à discuter. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des irréductibles, de ceux qui sont totalement anti-vaccins? On continue à discuter ou on arrête?
Alors, de toute façon, c'est dans toutes les civilisations, il y a des anti-vaccins. La question est de savoir à un moment quel est le niveau de ces anti-vaccins. On ne le sait pas bien actuellement. Vous savez que si vraiment on voulait s'en sortir, il faudrait vacciner plus de 80% de la population. Donc, s'ils sont 20%, ça va être un vrai problème. Pourquoi? Parce que finalement, on va devoir mettre en place des mesures restrictives, des actions, des masques, des limitations pour 100% de la population parce que 20%, 10% ne se sont pas vaccinés. Ma grande crainte, c'est qu'à ce moment-là, on inverse la tendance et qu'il y ait un clivage inverse. Avant, on avait le clivage des anti-vax, si vous voulez pas dire, qu'on ait un clivage qui soit tous ceux qui sont vaccinés se disent « j'ai pas de raison de continuer à avoir des mesures de restriction parce qu'une faible partie de la population s'est vaccinée ». Excusez-moi. La population ne s'est pas vaccinée. Pardon, j'ai oublié d'un de monter.
Pas de problème.
Juste une question. Vous disiez, on ne sait pas combien sont les anti-vaccins. Je suis allé regarder hier soir. Les vaccinés contre la rougeole sont 96%. Donc ça veut donc dire qu'il y a entre 4 et 5% d'antivax résolus que vous n'arriverez jamais à convaincre. Mais ça veut dire qu'on peut en convaincre 95%.
Alors, le problème de la rougeole, c'est que c'est une vaccination obligatoire.
Bah oui, oui.
Et que les 4 ou 5%, c'est pas forcément des antivax, c'est des gens qui peuvent avoir des contre-indications, des gens qui sont pas accessibles, ou alors vraiment qui se cachent. Donc, c'est relativement faible à ce moment-là. Et si on avait 95 ou 96% de la population vaccinée contre le SARS-CoV-2, là, on aurait déjà une bonne immunité collective. Donc, la question ne se poserait pas de la même manière. Mais c'est quand on va être à la limite. Parce que l'épisode variant Delta, si on continue avec 30 ou 40% de gens non vaccinés à deux doses, on va avoir d'autres variants qui vont continuer à apparaître dans la suite. On n'en sera pas complètement débarrassé.
Merci beaucoup Philippe Amouyal d'avoir été avec nous, professeur en santé publique au CHU de Lille. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Sylvain qui nous appelle de Castelnau de Médoc en Gironde. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour.
Toi tu es commercial et tu voulais parler des gestes barrières qu'il ne faut pas oublier même si on est vacciné.
Non, alors c'est pas tout à fait ça. Moi, je suis une position entre Emmanuel
Mineman Mine Chypre
et Laurent. Alors plus vers Laurent pour une fois. aujourd'hui, on le sait, il y a suffisamment d'études qui nous montrent que par exemple, le confinement ne sert pas à grand chose, notamment des études américaines qui ont montré, comme là-bas c'est chaque gouverneur qui décide de sa politique sanitaire, que entre un État qui a été confiné avec des mesures très strictes et l'État d'à côté où c'était plutôt light, il n'y a eu aucune incidence significative par rapport au nombre de contaminations et également sur la mortalité. Donc, aujourd'hui, faire des mesures très restrictives, aujourd'hui, on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, vous m'entendez toujours?
Oui, on t'écoute religieusement.
Religieusement, oui.
Impeccable. Et par contre, là où j'aurais une interrogation, on va dire, où, ce qui me dérange un peu, c'est la communication par rapport au vaccin. J'aimerais qu'on soit vraiment très précis, et je pense que c'est ce qui émet des doutes sur ceux qui ne sont pas encore vaccinés, hors, je parle hors les anti-vaccins.
Oui.
C'est vraiment à quoi sert le vaccin. Moi, personnellement, je ne suis pas vacciné encore. Moi, je ne suis pas du tout anti-vaccin. C'est que on n'arrête pas de nous rabâcher. Vous êtes vacciné, ça y est, il n'y a plus de contamination, vous êtes protégé, etc. On le voit bien que aujourd'hui, les pays qui sont très en avance dans la vaccination, l'Angleterre, les Seychelles, Israël, par exemple, et bien là, les contaminations repartent à la hausse. Un autre exemple plus près de chez nous, dans les Landes, l'EHPAD où on a eu tous les pensionnaires qui ont été contaminés, on sait qu'ils avaient tous été vaccinés.
Et beaucoup, oui, mais tu vois, ils n'ont pas fait de forme grave, ils n'ont pas eu besoin d'aller en réanimation. Et je rappelle qu'un médecin et plusieurs infirmières n'étaient pas vaccinés dans l'EHPAD.
Oui, mais je suis entièrement d'accord. Si la communication sur les vaccins, au lieu qu'on arrête, quoi, on est toujours en train de nous dire, comme les pubs du gouvernement, par exemple, ça y est, vous êtes vaccinés. Hop, c'est nickel, vous risquez plus rien, vous êtes plus contaminé et vous pouvez plus transmettre le virus.
Tu veux dire, il n'y a pas de carotte, quoi. Ouais.
On le sait, non, on sait que c'est faux. Puisque là, on voit bien dans l'EHPAD, ils étaient vaccinés et pourtant ils ont tous attrapé.
Non, Sylvain, pardon, je t'interromps. Le fait d'être vacciné réduit considérablement la transmissibilité du virus. Ça ne veut pas dire qu'elle la supprime totalement, elle la réduit. Et quand on la transmet dans une forme, j'allais dire, dégradée, donc moins grave pour le patient. Mais surtout, le fait d'être vacciné pour soi-même, cette fois-ci, te protège à quasiment 100% des formes graves. Or, le problème de toutes les restrictions qu'on a posées, c'est parce que notre système de santé était à deux doigts d'exploser. Si un maximum de gens sont vaccinés et donc n'ont plus aucune chance de faire des formes graves, ça veut dire qu'on libère complètement notre système hospitalier, notre système de santé. C'est quand même ça qu'on cherche. Et on va pas vers des dizaines de milliers de morts. On en est quand même déjà à 110 000 morts. C'est quand même ça le sujet.
Ah, je suis entièrement d'accord, mais c'est non, pour ça que la communication devrait être axée sur ça permet de réduire les formes graves et non pas
on va retrouver une vie normale. Ouais, c'est une fausse, c'est presque une pub un peu mensongère.
Ouais, c'est ça, parce que Sylvain.
Ouais, non, mais je comprends ce que
Sylvain,
tu dis.
Ce que tu dis, c'est qu'en fait, les gens entendent une promesse.
Qui est fausse, en fait.
Et la réalité fait que on a l'impression que la promesse n'est pas tenue.
Il vaudrait mieux dire, vous ne ferez pas de forme grave.
Mais
en
oui,
fait.
C'est ça. Et que du coup, on se dit, mais est-ce qu'on nous raconte pas des bobards?
Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu débattre avec nous dans Noman le Chip sur RMC. On va continuer ensemble dans un instant à se demander si on ne déconfine pas trop vite au vu de la manière dont le variant Delta progresse dans le pays. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Noman le Chip.
Midi 14h.
Noman le Chiffre.
Noman le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Fin des jauges dans les restaurants. Retour des festivals en extérieur. Plus de restrictions pour les mariages. Et oui, nous sommes le 30 juin. C'est le nouveau monde. La dernière période du déconfinement. Sauf pour les Landes qui gardent ces restrictions jusqu'au début juillet. Est-ce qu'on ne déconfine pas trop vite? C'est notre question pour Noman le Chiffre. Oui, la quatrième vague est devant nous pour Laurent Neumann. Non, les restrictions ne servent plus à rien. Le seul sujet, c'est la vaccination. Et le professeur Jean-François Delfrécy, qui était ce matin sur France Inter, président du Conseil scientifique, est plutôt minoman, mi-le-chip. On l'écoute.
On ne doit pas flipper, mais on doit être réaliste et conscient. On va avoir un été où chacun d'entre nous, moi le premier, on va relâcher. On a envie de vivre. Je le comprends parfaitement et de la part de tout le monde. On a la notion qu'il y a la vaccination. Et puis, on se doit se souvenir de ce qui s'est passé l'an dernier, durant l'été de l'an dernier. On était à des chiffres à peu près comparables fin juin 2020.
Et
on a vu
la
deuxième vague arriver à partir du mois de septembre. Et là-dessus arrive ce variant Delta, qui provient d'Inde, on l'appelle aussi variant indien, et qui a un niveau de transmission qui est nettement plus élevé.
Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16.
Et on est avec Laurent qui nous appelle depuis la Seine-et-Marne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Toi, tu as reçu ta deuxième dose ce matin.
Oui.
Pour toi, le gouvernement aurait dû imposer un seuil de vaccinés.
Oui,
pour lever les restrictions.
Tout à fait. Je pense qu'on considère trop les Français comme des beubeux. On est capable de prendre nos responsabilités à un moment donné. Donc, le gouvernement peut très bien proposer 80% de vaccinés, sinon on ne lève pas les restrictions parce que de toute façon, on a une chance énorme de repartir dans une quatrième vague. Les variants sont de plus en plus agressifs, surtout le Delta. Si on est moins de 80% ou 90% de vaccinés, je ne sais pas.
Au moins, ça aurait poussé les gens à se bouger.
C'est une bonne incitation, ouais.
Un autre seuil. Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette proposition ?
C'est une bonne idée. Je ne sais pas si elle aurait été acceptée par les Français. Et puis, il faut faire attention de ne pas monter les gens les uns contre les autres. Quand tout à coup, tu es vacciné et que tu vois que les restrictions sont encore maintenues parce que d'autres à côté de toi, ton voisin, ton collègue de travail n'est pas vacciné, ça peut très vite tourner au chahut, quoi. Voilà.
Soit ça tourne au chahut, effectivement c'est une possibilité, mais je pense que les Français sont quand même largement assez intelligents pour, si mon voisin n'est pas vacciné, aller discuter avec lui puis essayer de le convaincre.
Tu vois Laurent, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas au voisin d'aller faire ça, c'est au médecin traitant. C'est exactement pour ça que je défends l'idée.
Pourquoi se priver
de la forme de pression sociale exercée
par un médecin traitant.
D'abord Laurent et Emmanuel, je pense que vous allez être d'accord avec moi, vous rendez compte de la pression sociale qu'il y a sur le vaccin. Souvenez-vous, au mois de décembre, avant que la campagne de vaccination commence, 60% des Français étaient réticents à aller se faire vacciner. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 50% de la population vaccinée. Donc, ça veut dire que la pression sociale, elle a joué. La pédagogie, ça marche. La force de conviction, ça fonctionne. Ah oui, maintenant, il faut aller chercher des gens par les bretelles, parce qu'ils sont plus éloignés que toi, moi ou Laurent, du vaccin. Et là, c'est le rôle, à mon avis, des médecins traitants, et non pas le rôle du voisin ou du collègue de boulot. Tu peux, dans une conversation, Laurent, dire à ton voisin, écoute, t'es gentil, Jean-Marc, mais ce serait bien que t'ailles te faire vacciner, parce que moi, j'en ai marre de porter le masque et de voir mes magasins fermés. Tu peux le faire.
Alors, effectivement, mais tu peux aussi prendre en considération qu'il y a quand même une partie de la population qui va peut-être se dire, ah ouais, mais moi, si je veux retrouver une vie normale, il faut que j'aille me faire vacciner. Sinon, je n'aurai pas de vie normale.
C'est vrai.
C'est l'incitation.
Bon, là, maintenant, ça y est, il n'y a plus de restrictions sanitaires, à part le masque, la distanciation dans les de la foule. Mais s'il y a une quatrième vague qui arrive, on va faire quoi ? On va refermer les restaurants, on va fermer les discothèques. On va repartir au télétravail, on va foutre la France dans la merde.
Oui, on peut même imaginer, Laurent, tu vois, je vais aller dans son sens, on peut même imaginer des gens qui se disent, ça y est, c'est fini, les restrictions sont levées, c'est plus la peine que j'aille me faire vacciner. Et j'en connais, j'en ai croisé. Et donc là, oui, il faut faire la pédagogie.
Je te repose la question, est-ce que tu es sûr que tout le monde a un médecin traitant ? Parce que moi, par exemple,
j'ai regardé, il y a 10% de la population française qui n'en a pas, c'est vrai. Et qui sont encore plus éloignés du système de santé, 10%. Mais donc,
parce que moi, je ne suis pas du tout éloigné du système de santé. Je n'ai pas de médecin traitant.
Écoute, tu fais partie des 10%, mais 90% des Français ont un médecin traitant aujourd'hui.
Merci beaucoup Laurent d'être venu débattre avec nous dans Neumann le Chypre. On est avec Jean-Baptiste qui nous appelle de Château-Thierry, c'est dans l'Aisne. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Tu es contrôleur technique dans l'automobile. Tu es plutôt côté Laurent Neumann.
Tout à fait. Alors hier j'étais côté Laurent, aujourd'hui je suis plutôt le Chypre.
D'accord. Donc
qu'est-ce qui s'est passé
c'est
entre hier et aujourd'hui?
Alors en fait c'est cette histoire d'obligation en fait qui me fâche un peu. Et alors je trouve qu'on laisse trop vite les restrictions, c'est clair. Ça c'est sûr. Quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, il y aura un décalage, ça c'est sûr à 100%. Il va y avoir un décalage. On a toujours été en décalage par rapport aux autres. On va se la prendre dans la figure. Ça c'est clair. Moi ce que je vois en fait, ce qu'il aurait fallu faire en fait, c'est un état des lieux du pays en fait, au niveau des vaccinés, de ceux qui sont protégés par le vaccin et ceux qui sont protégés par leur immunité, ceux qui l'ont déjà eu en fait. Parce que moi en fait j'ai déjà eu le Covid, je parle de mon cas personnel, j'ai déjà eu le Covid en mois de mars j'ai pas eu des symptômes tout de suite, j'ai eu senti une certaine fatigue que j'ai pas mis sur le dos du Covid en fait, puis des courbatures et vers la fin j'ai commencé à avoir la fièvre, la perte de goût et là je me suis dit c'est bon je l'ai, donc je décide de me faire tester, je ressors avec un test négatif. J'en parle à mon médecin traitant qui me précise, je te prescris une sérologie. Donc, il me prescrit une sérologie. Je fais la sérologie une semaine après et sérologie positive à 95%.
D'accord.
Donc, 95% anticorps, je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc moi, je dis à mon médecin, bon, ok, bah du coup, tu as eu le Covid, donc dans 3 mois, tu vois, pour te faire vacciner au mois de juillet, fin juillet, début juillet. Donc, je retourne voir mon médecin pour un renouvellement d'ordonnance et je lui dis en même temps, tiens, est-ce que tu peux me recevoir une sérologie? Parce qu'en même temps, je voulais, moi, faire un bilan sanguin et tout ça. Il me dit pas de souci, je t'en prescris une. Je refais une sérologie, donc là, et je pensais être descendu, pour voir ce qui aurait été logique, et non, je suis encore monté.
Mais est-ce que du coup tu dois aller te faire vacciner ou pas? Il dit quoi le médecin?
Eh ben le médecin, il m'a dit clairement, pour l'instant c'est pas la peine, je suis à 192%.
Ah oui.
192, voilà, 192%. Alors j'ai mon ex-copine qui l'a eu aussi comme moi, et elle, par contre, eh ben elle est à 25.
Donc elle doit.
Elle a eu sa dose. Elle a eu sa dose. Voilà. Elle a eu sa dose parce que forcément, ce métier n'a pas duré.
On est très différents, quoi.
Voilà, c'est très épars. Donc, ce qu'il aurait fallu faire. Donc, c'est simple. C'est un état des lieux. Voilà. Prescrire des sérologies massives pour se rendre compte de la protection des gens. Ceux qui sont protégés naturellement, ceux qui ne sont pas protégés et qui doivent se faire vacciner, avant de lâcher la brique comme ça sans savoir.
Ouais, enfin, Jean-Baptiste.
Là, on y va à l'aveugle. On y va à l'aveugle.
Jean-Baptiste, l'assurance maladie connaît précisément qui est vacciné. Elle connaît précisément ceux qui ont déclenché la maladie avec des symptômes et qui, pour certains, j'espère la plupart, se sont isolés, etc. Mais elle ne connaît pas tous ceux qui ont eu la maladie, qui n'ont pas eu de symptômes.
Et qui ne le savent pas eux-mêmes.
Et donc, qui ne le savent pas eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement difficile de le savoir.
Oui, mais qu'est-ce qu'on risque à être vacciné alors qu'on l'a eu?
On ne risque rien.
Rien.
Donc finalement, si Jean-Baptiste il avait une dose,
c'est pas très grave.
Il serait passé à 350% de potentiel. Merci beaucoup.
Et là, tu deviens tout vert et plus en restant.
Arrête. Tiens, troisième braquet.
Non, c'est une blague. C'est une
retire
blague,
ce que tu viens de dire, s'il te plaît.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être venu débattre avec nous. On est avec Tony qui nous appelle depuis Biganos en Gironde. Bonjour, Tony.
Bonjour tout le monde.
Salut, Tony.
Salut, Tony.
Tony, tu n'es ni le Man ni le Chypre.
Ah oui, et puis alors je vais mettre le chahut, hein. Bon.
Vas-y,
alors,
chahut.
Non, moi, je pense que les restrictions, c'est un peu comme la vaccination obligatoire. Je pense que c'est un peu une escroquerie. Alors, excusez-moi, hein, je sais que je vais choquer. Mais les restrictions, elles sont mises par des gens qui, en fait, n'y connaissent rien au virus, pas plus que les scientifiques. Donc, concrètement, moi, ça m'énerve de me dire, attention, on va refermer, on fait que ça depuis 2 ans. Ça, on ferme, on ouvre, et au final, on se retrouve au même point qu'il y a 2 ans. Donc, au final, moi, je pense qu'il faudrait laisser circuler le virus. Mais en revanche, il me semble que si on en est là, c'est parce que les services hospitaliers étaient engorgés. Oui. Donc si on part du principe que pour les désengorger, il faut vacciner les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, et puis allez hop, tous ceux qui ont la frousse, parce qu'il y en a qui ont peur, faut le reconnaître, eh bien dans ces cas-là, il n'y a plus de problème à l'hôpital.
Ouais.
Donc toi, tu
avoir la frousse du virus, c'est pas forcément négatif, hein.
Non, c'est pas négatif. Je comprends. Moi,
j'ai plus peur du virus que du vaccin.
Voilà. Mais oui, mais moi, c'est pas une question de peur, c'est une question de me dire quel est mon bénéfice.
Tony,
de mon âge. Bon, Tony, mon gamin, il a 12 ans, j'ai pas envie de le faire vacciner, il risque quoi?
Non, mais Tony, tu en tires quelle conclusion? Qu'il faut aller vers la vaccination obligatoire?
Non, pas du tout. Mais non. Moi, je pense qu'il faut vacciner tous ceux qui ont des soucis et qui peuvent en mourir.
Donc, obligatoirement? Non, mais je repose ma question. Obligatoirement?
Non, pas forcément, parce que celui qui prend son risque, celui qui dit « ben moi je risque de mourir », ben c'est lui qui risque de mourir, mais il a aucune chance de le redonner à quelqu'un qui est vacciné. Donc si lui, je vais vous donner un exemple. Ma grand-mère a 90 ans, elle ne s'est jamais fait vacciner pour la grippe parce qu'elle se dit « moi j'ai jamais eu de problème, j'ai chopé la grippe, j'ai jamais eu de soucis, pourquoi j'irais me faire vacciner ?» Elle est très sceptique. Bon, mais pour le Covid, elle a le même tempérament. Alors moi je dis « bon, je vais faire attention avec toi mamie, je vais prendre mon masque, je vais me laver les mains parce que j'ai pas envie que j'ai ta mort sur la conscience. » Mais concrètement, elle est consciente du fait que si elle le chope, il y a de fortes chances qu'elle y passe.
Mmh. Elle a pris son risque. C'est ça que tu veux nous dire,
ouais, mais
Tony.
Je crois que si tu prends, alors
le problème, c'est le risque collectif par rapport
alors,
au risque
collectif
individuel.
Et je crois que Laurent avait cité une fois le nombre de Français qui étaient atteints de comorbidité. Et que
tu
arrives entre 13 et 15 millions.
Ben voilà, et donc que tu arrives de fait à un chiffre extrêmement extrêmement élevé.
Merci beaucoup Tony d'être venu discuter avec nous dans Demain le Chip. Quel est le résultat définitif, Lisa Marie?
Ça n'a pas trop bougé, vous êtes finalement 65% à avoir répondu non, on ne déconfine pas trop vite, vous êtes donc de l'avis de Laurent Neumann.
Pas d'envie particulière de retour en arrière.
Tu ne diras plus que c'est 50-50.
Je ne dirai plus rien, je m'excuserai d'ailleurs même. On va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann le Chypre.
Le C'est quoi ça?
Bonjour, aujourd'hui au C'est quoi ça avec Jamel et Vincent. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour l'équipe.
Salut messieurs.
Salut à vous deux. Jamel, tu es dans l'Essonne, tu es jardinier paysagiste. Est-ce que tu veux jouer avec Laurent ou avec Emmanuel?
Avec Laurent.
Salut. Alors, Jamel.
Laurent, Jamel, salut, Vincent, tu es à Chevigny en Vallière, c'est dans les Côtes d'Or, tu es routier et tu joues donc avec Emmanuel. On joue pour gagner une semaine de vacances dans les appartements.
Mona Lisa.
Non, Noémie, ça s'appelle. Les appartements Noémie pour 4 personnes pour une semaine. C'est parti, première question entre Jamel et Vincent. On buzz avec son prénom avant de donner sa réponse. Que signifie l'acronyme PMA ?
Jamel. Procréation médicalement assistée.
Oui, bravo. Premier point pour Jamel.
Je
bravo,
crois que Jamel a profité de la réponse de Vincent, mais j'en suis pas sûr.
Il faut dire son prénom. Je suis désolée, c'est toujours la même règle. Question entre Laurent et Emmanuel.
Trop fort, Jamel.
Quel est le pourcentage de Français qui ont désormais reçu une dose de vaccin ?
Laurent.
Jamel.
Non, Laurent.
Laurent, 50, plus de 50%.
Absolument. Question entre Jamel et Vincent. Laurent. Quel événement du nord de la France a été annulé
Vincent. La braderie de Lille.
Absolument.
Bien joué, Vincent.
Dis donc, c'est pas la grande braderie ?
C'est la braderie de Lille.
Non, c'est la braderie de Lille.
Non, c'est la braderie.
Question entre Laurent et Emmanuel. Comment s'appelle la première femme nommée hier présidente du Comité olympique français ?
Vincent. Laurent.
Vas-y.
Hélène Bruckerès.
Attends, c'est pas à toi de jouer. Vincent, Jamel, attendez.
Vincent.
Emmanuel, il n'en sait rien. Alors, Vincent, Emmanuel, vas-y. Brigitte Henrik, effectivement.
Bravo, Vincent.
Je te donne le point, Vincent.
Ah bon ?
C'est gentil. Ah, bah oui.
Elle change les règles en cours de route. Okay.
Je te donne le point. On est à deux partout. Question entre.
C'est
la
question.
Jamel et.
Pour les départager.
Vincent, c'est la question pour se départager, absolument. Oui, quelle équipe s'est imposée 2-0 face à l'Allemagne dans l'Euro ?
Vincent.
Je crois que c'est Jamel.
Ah non, c'est Vincent.
L'Angleterre. Non, je suis. Tout le monde a entendu Jamel. C'est donc Jamel, Angleterre en quart
Vincent,
de finale. Qui va aller
Jamel,
en quart de finale.
Est-ce que tu es capable de dire qui a mis le premier but pour l'Angleterre ?
Non, mais ça change rien, Laurent.
Raheem Sterling.
Bravo. Là, il mérite son point. Là.
C'est toi, Jamel, qui gagne ta semaine de vacances dans les résidences Noémie. Tu vas pouvoir partir avec des amis.
Vincent, désolé, Vincent.
Bravo, Jamel.
Bon.
Merci, super. Franchement, c'est une bonne nouvelle.
Je voulais avec Laurent, bah tant pis. Hein. Ah bah. Je me suis planté, quoi. Hein.
Ouais, désolé.
Bah, tu rejoueras et tu prendras Laurent. Merci à tous les deux. On rejouera demain. Restez avec nous sur RMC. Salut. Dans un instant, on va parler de l'âge de la retraite à 64 ans. L'âge et l'idée est relancée comme ça, comme un os que nous allons pouvoir ronger. Faut-il travailler plus et plus longtemps ? C'est notre question pour Emmanuel. Oui, plus on vit vieux, plus il faut travailler longtemps. Pour Laurent Neumann, non, le problème, c'est pas de travailler plus, c'est que tout le monde travaille. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.